bienvenue autour de cette nouvelle table ronde qui abordera donc un nouveau sujet, l'utopie donc de la ville neuve et l'utopie en général des grands ensembles. On va donc écouter une première chronique qui traite de ce sujet. C'est l'heure de Trait pour Trait.
Si on vous confiait qu'il existe un quartier sans voiture où tout est fait pour que vous échangiez avec votre voisin, aussi différent soit-il, où la convivialité est reine, où les portes de l'école sont ouvertes à une autre forme d'éducation, et bien d'autres choses encore, vous répondriez « ça n'existe pas ». Or, c'est pourtant bien ce qui a été imaginé ici, à deux pas de chez vous, peut-être même chez vous, ou pour vous, au travers du projet des Deux Villeneuve. Portrait d'un quartier en projet ardu, signé Fanny.
Quand on parle de ce quartier, on pense tout d'abord à l'aîné, la Villeneuve de Grenoble. Ses réalisations, telles que sa célèbre galerie de l'Arlequin, son parc aménagé par le regretté Michel Corajou, ses divers équipements ayant pour but de regrouper au sein d'un même espace plusieurs activités, ou encore sa pédagogie et ses méthodes actives, basées sur les centres d'intérêt, l'esprit d'exploration et de coopération. Mais dans ce vaste projet se trouve également la petite sœur, la Villeneuve des Girolles. Trop souvent oubliée, la cadette, à l'instar de sa sœur, a essayé de mettre en avant ce que certains appellent le nouvel urbanisme. Toutes données dans le contexte de mai 68, elles sont le fruit d'une expérimentation sociale et urbaine ambitieuse. Bien qu'articulées différemment selon leurs municipalités respectives, les objectifs initiaux communs insistent clairement sur l'idée du vivre ensemble, c'est-à-dire au sein d'une mixité sociale et générationnelle. L'Agence d'urbanisme et d'architecture, en charge du projet de la Villeneuve de Grenoble, porte un regard critique sur les grands ensembles parisiens. Cette dernière ira même jusqu'à les décrire comme des purs produits technocratiques sans pensée urbaine. C'est ainsi qu'apparaît, en écho à celle-ci, en 1965, l'Agence d'urbanisme de l'agglomération grenobloise, à l'initiative de Hubert Dubedou. Un temps pensé comme un exemple de mode de vie alternatif, privilégiant les relations entre les habitants, ce quartier fera très vite l'objet de nombreux reproches. Si certains remettent en cause sa forme urbaine, certes exceptionnelle pour l'époque, d'autres lui reprochent de ne pas s'adapter suffisamment à l'évolution de la société. On peut se demander si les questions de densité, de volume des bâtiments ou encore d'organisation spatiale entretiendraient-elles l'idée de coupure avec le reste de la ville. Pour sa part, Jean-François Parent, urbaniste de la Villeneuve de Grenoble, revient non seulement sur les problèmes de population, mais aussi sur la différence de moyens débloqués par les décideurs pour la conception et la gestion urbaine. Il va même jusqu'à dénoncer le mauvais entretien de l'aîné des deux sœurs en proclamant en 1996 que les élus précédents l'auraient volontairement caricaturé pour nuire à son identité. En serait-il de même pour sa jeune sœur ? Les sœurs Villeneuve font ensuite face aux grandes évolutions économiques de ces 30 dernières années, ainsi qu'aux équipes municipales qui se succèdent. Entre tensions politiques et profondes mutations socio-économiques, leur rêve de départ s'effondre face à la réalité. Selon certains universitaires, ces quartiers voient leur statut changer. En effet, on les nomme aujourd'hui zones urbaines sensibles. On est bien loin de l'idée initiale de modèle. D'après l'économiste Laurent Davézy, on peut observer, je cite, qu'entre deux photographies statistiques d'une zone urbaine sensible, les indicateurs de pauvreté restent au plus bas, mais que les populations changent rapidement. Pour le géographe social Christophe Guilly, les quartiers de grands ensembles, perçus comme des nasses, sortes de petits pièges, sont en réalité des sas, où les populations sont très mobiles. Ainsi, à proximité de la création de richesses situées au cœur des villes, ces quartiers ne seraient-ils pas le lieu d'accueil d'une mondialisation par le bas, opposée à une mondialisation par le haut, effectuée par les cadres et classes supérieures qui font leur marché sur les territoires? Plusieurs nouvelles interrogations apparaissent donc. De quoi sera faite la Villeneuve de demain? Les projets de renouvellement urbain en cours seront-ils à même d'inverser la tendance? De ce fait, l'espace public deviendra-t-il le cœur du quartier? Les réponses semblent difficiles à dire. Toutefois, en refusant de sombrer dans une quelconque forme de pessimisme, ce quartier peut être conçu comme une véritable opportunité à l'échelle de la métropole. Allant jusqu'à imaginer, avec une étincelle d'espoir, voire de liberté, les futurs usages de la ville du XXIe siècle. En d'autres termes, là où ailleurs tout est à inventer, ici, à la Villeneuve, il ne suffit que de la réveiller.
Alors pour parler de l'utopie de la Villeneuve, nous avons désormais autour de la table Éric Ruiz, qui est élu, Pierre Labrié, qui est
pas encore
urbaniste, Pierre Labrié, qui lui est élu à la mairie des Girolles, Idrissa Roub, qui représente l'association Voix des Femmes, et nous avons aussi Édouard Réau, étudiant en urbanisme. Je m'adresse à vous, Édouard Réau, dans vos projets, quand vous travaillez, Est-ce qu'il y a encore une place à l'utopie? Comment vous intégrez encore cette idée-là de rêve dans vos projets?
Dans tous les projets qui ont été faits, il y a une grande part d'utopie, effectivement. On a par exemple un projet d'agriculture urbaine qui se présente comme une nouvelle forme urbaine, mais aussi comme un nouveau type d'organisation sociale et économique, donc capable de ramener de l'emploi. C'est une utopie. On a un projet de tram verte pour des mobilités en vélo et qui imagine comment la ville pourrait permettre de bouger donc avec d'autres modes que la voiture et que ce soit efficace, qu'on puisse aller loin. C'est une utopie aussi. Et puis il y a beaucoup de projets d'architecture et d'urbanisme qui parient sur le lien social avec des espaces partagés, de mélange entre les générations, etc. Donc il y a beaucoup d'utopie dans les projets des étudiants et c'est une bonne chose parce que sans utopie, en fait, on ne peut pas se donner les moyens politiques d'avancer si on se laisse seulement porter par la conjoncture économique et politique. Mais c'est aussi une mauvaise chose et je voudrais attirer l'attention là-dessus. C'est que on voit que l'utopie, ça permet d'être sûr de soi, de se donner des moyens politiques. Mais la Villeneuve, par exemple, a été construite sur une utopie moderniste. Et on voit que les gens étaient tellement sûrs de ce qu'ils allaient faire qu'ils l'ont fait jusqu'au bout. Et finalement, en fait, ils sont allés dans le mur quelque part. Et enfin, on voit qu'il y a des mots d'ordre utopiques qui reviennent d'une époque à l'autre. Par exemple, on voit que le lien social, c'était déjà présent dans les années 70. C'est présent maintenant, donc on peut se demander si c'est encore à même de faire changer les choses. Quoi.
Pierre Labrière, peut-être. Comment vous intégrez donc cette utopie dans vos projets? Est-ce que vous l'intégrez? Est-ce que vous croyez au projet étudiant?
D'abord, ça va être difficile de réagir parce qu'en même temps parler d'utopie et en même temps réagir à tout ce qui a été dit dans les plateaux, comment j'intègre l'utopie dans les projets? D'abord, j'ai envie de dire, en réagissant, que mes premières lectures politiques, ça n'a pas été Sartre ou Karl Marx, mais ça a été les lectures d'utopie, les lectures de science-fiction, Philippe K. Dick, René Barjavel, Isaac Asimov, des gens qui ont écrit des choses qui étaient éminemment politiques, puisqu'elles étaient utopiques, et elles étaient même sociopolitiques. Et ça forme aussi une conscience politique personnelle. Et donc, oui, j'aime bien lire l'utopie. Maintenant, utopie, ça veut dire aussi qui n'a pas de lieu, donc qui n'arrivera pas. Et du coup, là, on est sur un projet qui doit arriver et qui va arriver et qui aura un lieu. Parce que le lieu d'habitation des habitants de nos quartiers ici, c'est celui-là. Et c'est celui où ils vivent aujourd'hui et pas au 22e siècle, puisque ce qu'on lisait dans Barjavel, c'était le 21e siècle à l'époque, mais ça faisait déjà loin. Et on le voit dans les interventions de Bekera Mokhtaria tout à l'heure ou de Brahim Djemar, c'est demain qu'on a besoin du boulot pour nos jeunes, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et du coup, c'est ce que je voulais dire, c'est que avant d'être un projet urbain, c'est un projet social et c'est un projet sociopolitique et que le projet social, il va être en amont du projet urbain dans tout ce qui va guider ce qui a par exemple fait les cinq thématiques qui ont été traitées aujourd'hui, l'économie et le commerce, l'urbanisme, les déplacements, vous en parliez à l'instant, et c'est le social qui va guider ça. Attendez, je vais terminer avant que vous me coupiez. Je sais que ça va vite là. Et donc du coup, juste pour dire que très très tôt, dès le début de mandat, mais ça avait été commencé par le maire avant, on a exigé, et l'association Jeunesse Espoir le disait tout à l'heure, on a exigé qu'un certain nombre de dispositions soient faites pour que les jeunes, comme disait Jeunesse Espoir, puissent travailler dans leur quartier. Et quand on nous dit, par exemple, le taux d'effort de 10%, le taux d'effort, c'est le nombre de personnes en insertion qui vont travailler sur un chantier, par exemple, comme un chantier qui est en cours ici, est de 10%. Eh bien, nous, la question qu'on pose, c'est « et si c'était 15 ?» Et si c'était, et s'ils nous disent ben on va essayer de faire 15, et ben on leur dira et si c'était 20% de jeunes, de moins jeunes, de gens qui sont en situation de sans-emploi et de difficultés sociales qui pourront demain travailler sur ce quartier. Et d'ailleurs, on a très très tôt demandé à la métro qui est qui est un peu le pilote de ce projet d'une certaine manière. De partout où c'était possible, y compris pour les femmes et y compris pour les personnes diplômées, et pour les personnes non diplômées, pour tous ceux qui ont une difficulté à trouver un emploi, de pouvoir trouver un emploi dans le cadre de cette énorme opportunité qui est de rénover un quartier comme celui-là. Voilà, vous pouvez me couper.
Merci. J'ai entendu que vous parliez de la place des femmes, justement. Donc, je vais laisser la parole à Idriss Adroud. Excusez-moi pour avoir écorché votre nom. Donc, qui est représentant, justement, de l'association Voix de Femmes. Donc, comment pouvez-vous réagir à cette question d'enjeux sociaux, d'utopie, etc.
Oui, alors moi j'interviens dans l'association Voix de Femmes comme professeur. En fait, je donne des cours pour dire attrapage. Donc mon lien avec l'association s'est limité à ça. Maintenant, si vous pouvez me donner mon avis personnel sur l'utopie et sur ce qu'elle a pu constituer, en tout cas dans les projets qui ont eu lieu avant, notamment par exemple on est à la Villeneuve de Grenoble, ben il faut resituer, je pense, le projet d'utopie dans son contexte historique et puis politique. C'était un moment où l'économie se portait bien, où il était possible encore d'imaginer des utopies sociales parce que c'était encore possible de le faire et de s'appuyer sur cela, sur des énergies civiles qui pourraient justement porter ce projet. Ce qui a eu lieu après, on est en train de constater maintenant que la cité a changé, que la cité a obéi à de nouveaux impératifs et que l'utopie aussi a un peu disparu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de projet politique qui porte l'utopie, justement. Les impératifs politiques actuels imaginent la cité dans une configuration plutôt sécuritaire, plutôt fluidifié et intégré dans l'ensemble de la cité, et donc l'utopie n'existe pas, donc de mon point de vue. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est des projets alternatifs qui s'appuient sur des énergies nouvelles et civiles, sur des gens qui sont des citoyens lambda et qui prennent à cœur un projet de société et de cité, et on ne peut pas les intégrer dans une utopie, c'est juste des alternatives qui luttent en quelque sorte et qui essaie d'exister parce que la configuration officielle de l'imagination de la ville ne se situe pas justement dans tout ce qui est alternatif. Et dans tout ce qui est alternatif, tel qu'on peut l'imaginer par exemple, et tel que comme ça se passe par exemple comme des villes comme New York ou dans d'autres grandes métropoles, où le citoyen justement s'approprie l'espace de la ville et imagine une alternative tout à fait différente. Cette alternative n'est autre qu'une citoyenneté qui s'annonce différemment et qui regarde la cité et la configure différemment.
Merci. Tout à l'heure, Pierre Labrier parlait que l'utopie n'avait pas de lieu. Et Idriss Haroum nous rappelle que l'utopie peut être aussi constituée de projets alternatifs. Du coup, je vous pose la question, Eric Ruiz, comment vous réagissez à ces deux discours?
Facilement. Ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est notamment que les alternatives qui sont citées, et c'est vrai que l'herbe, elle semble toujours plus verte ailleurs, mais les alternatives, en particulier dans le monde anglo-saxon, telles qu'elles ont été présentées, elles sont souvent en réaction. D'accord, c'est une forme de résistance, de contre-proposition. La vraie ambition d'une utopie, c'est à mon avis qu'elle soit fédératrice, plutôt que de se construire simplement sur une opposition qui serait en réaction. Et moi, je pense qu'on est sur un grand malentendu quand on parle d'utopie urbaine, c'est qu'on confond utopie urbaine et utopie de forme urbaine. Et c'est bien le malentendu de la Villeneuve. Alors que le projet qui s'ouvre à nous, il n'est pas une juxtaposition de projets d'aménagement. Il est, et on l'a vu dans les 5 tables rondes, c'est bien plus vaste que ça. Et cette utopie-là, c'est plutôt un projet de cité, comme vous le disiez, monsieur. C'est-à-dire, dans toute sa pluralité, dans toute sa complexité, l'emploi, le commerce, et tout ça, ça se base sur la vie quotidienne. Et travailler sur la vie quotidienne, c'est pas s'empêcher d'avoir des ambitions. Au contraire, c'est se donner la capacité de les construire collectivement et de fédérer les habitants comme une force de proposition, de les fédérer dans un projet avec les techniciens, les élus, en partageant des ambitions, en partageant des objectifs et pas en se déchirant sur des solutions. J'aime la butte ou je l'aime pas, ça c'est se déchirer sur une solution. Est-ce que cette butte, elle a une importance dans le projet urbain pour les habitants de proximité, mais aussi à une échelle urbaine? Est-ce que c'est un obstacle à une transparence urbaine, à une mobilité? Ça, c'est des vrais débats sur des objectifs. Se déchirer sur « non, mais en fait, moi, j'amène un dessin qui est plus beau que le tien », ça, c'est simplement se déchirer sur des solutions et ça n'est pas constructif. Je pense que le mot utopie, dès lors où il accepte une certaine modestie dans sa mise en œuvre, c'est pas pour ça qu'il érode les ambitions, au contraire. C'est celui qui va fédérer, qui va au contraire donner les opportunités de construire dans le temps. Et ça, c'est la chronique qui a été présentée, elle est très explicite en la matière sur la Villeneuve. Le gros problème de la Villeneuve, c'est son incapacité, enfin sa grande difficulté à faire évoluer cet urbanisme. On a compris depuis que la vraie construction de la cité, elle se construisait au temps de la cité qui s'accélère beaucoup. Les usages changent, donc la cité doit évoluer avec. Et faire évoluer la Villeneuve, c'est pas faire un constat d'échec, c'est simplement constater que la société qu'elle accueille, elle a évolué. Donc il faut faire évoluer le projet. Donc construire avec les habitants, c'est se donner des étapes et ne pas figer dans le marbre un projet pour les 50 ans à venir. Parce que dans les 50 ans à venir, personne ne sait ce qui va se passer.
Merci Eric Ruiz. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Il est déjà l'heure de clore la dernière table ronde avant de laisser la parole aux habitants. Avant de passer le micro dans le public, donc j'ai un certain nombre de personnes à remercier. Donc, tout d'abord, je remercie vous qui étiez là donc, autour de cette dernière table ronde. Je remercie aussi la Butte qui nous accueille aujourd'hui. Un grand merci pour la technique et Nizar. Merci à la mairie d'Échirolles, à l'association d'archéologie. Merci à l'école d'architecture, aux professeurs et aux étudiants, à l'Institut d'urbanisme de Grenoble, aux professeurs et aux étudiants aussi. Merci à l'ensemble des habitants qui sont ici et qui ont participé de près ou de loin à tous nos projets. Et puis merci à tous ceux que j'ai pu oublier.